Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission C'est de la locale sur Radio Pulse. Il est 18h, ça commence maintenant. Je suis accompagné comme tous les jours de Tatiana. Tatiana, comment tu vas aujourd'hui?
Bah écoute, ça va plutôt bien, et toi?
Bah écoute, je vais carrément bien, ça régale. Tiens, pendant que t'es complètement éveillée, c'est quoi le programme de l'émission de ce soir?
Eh bien, je te propose d'aller te balader ainsi que les auditeurs en pleine nature, là où les poissons, sangliers et terroirs normands se découvre, et pour cela cap sur le salon chasse, pêche, nature et terroir, le tout premier à Alençon. C'est ce week-end à l'espace Anova, et derrière ce projet ambitieux, j'ai rencontré Emmanuel Olivier, pêcheur de longue date et créateur de l'association à l'origine du salon. Il est venu à Radio Pulse pour nous emmener dans les coulisses de l'organisation de ce salon qui s'annonce eh bien exceptionnel. Après cet échange, je vous retrouverai durant cette heure les deux présentations des deux nouveaux disques Ferrarock de la semaine, à savoir l'album Avec toi de Pierre Gisèle et enfin l'album La fête de la flamme.
Franchement, beau programme. En plus, c'est même pas fini puisque on aura le tête-à-tête du jour et nous parlerons de naissance. Alors, naissance du rock, naissance du cinéma, naissance de l'art. Non. Vraiment, on va parler de naissance, de la naissance du bébé qui prend vie, quoi. Et en fin d'émission, comme toujours, l'incollable local qui vous attendra. Et c'est déjà bien, c'est un beau programme.
Oui.
Et puis ça commence tout de suite, ne bougez pas. C'est sur Radio Pulse, émission C'est de la locale avec Tatiana et moi-même.
Une fréquence a été découverte. Le signal s'intensifie. Le message se répand plus rapidement. Pulse.
Aujourd'hui, cap sur un événement inédit qui verra le jour le week-end du 7 et 8 juin, le tout premier salon chasse, pêche, nature et terroir. Derrière ce projet ambitieux, un homme passionné, Emmanuel Olivier, pêcheur de longue date et créateur de l'association à l'origine du salon. Il est avec nous aujourd'hui pour nous parler de cette aventure, de sa passion pour la pêche et de l'esprit qui anime ce rendez-vous unique. Bienvenue à vous, comment allez-vous?
Eh bien très bien, je suis ravi que vous m'accueillez sur votre plateau, c'est un vrai plaisir.
Mais un plaisir pour nous aussi. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment est née votre passion pour la pêche et la nature?
Alors moi, c'est tout un ensemble, hein. C'est chasse, pêche, nature et terroir, comme le titre de notre salon, c'est ce qui rassemble un petit peu la ruralité en règle générale. C'était, il y avait auparavant la fête de la chasse de Carouge qui avait lieu, qui s'est arrêtée maintenant il y a 8 ans, car l'organisateur avait des problèmes de santé, et c'était un événement où il y avait plus de 35 000 personnes à l'époque, et qui était vraiment un rassemblement annuel pour tous les passionnés. Et il y avait un manque dans le Grand Ouest, c'est quelque chose qui n'existait plus. Et à force un petit peu de faire le tour et que tout le monde nous dise ah, il n'y a plus, bon, je me suis dit pourquoi pas relancer ce projet.
Il y a un truc à faire.
Voilà, c'est ça. Et les événements ont précipité les choses dans le sens où j'ai perdu mon papa l'été dernier. Mm-hmm. Et puis j'ai hérité un petit peu de son argent, et plutôt que de partir en voyage ou de m'acheter une voiture comme on aurait pu le faire personne lambda, je me suis dit bah autant mettre cet argent dans le projet. Et puis pour mes ancêtres, comme mon grand-père avec qui j'étais très proche, c'est une image et un hommage à eux.
C'est ça.
Voilà, que je leur rends pour ce salon.
Et donc du coup, on va y venir, ça doit être un financement assez conséquent pour un tel salon, un tel événement.
C'est une folie, c'est une folie complète. C'est un risque, bon, je pense que je l'ai mesuré, du moins avant de démarrer. Si les visiteurs sont là, voilà, l'événement pourra être renouvelé annuellement, c'est un petit peu l'objectif. Le premier week-end de juin de tous les ans, on est parti, si tout va bien, pour 20 ou 30 ans.
Génial.
Jusqu'à tant que Dieu me prête vie, voilà, on ira le plus loin possible.
Bah, on note dans les agendas, chaque début du mois de juin.
C'est ça, Alençon.
Par rapport à la programmation, à quoi on peut s'entendre pendant ce week-end?
Alors sur la programmation, c'est une première année, c'est une ébauche de ce qui va se passer l'année prochaine, parce qu'on a quand même beaucoup plus de choses qui sont prévues pour l'année prochaine. Mais ceci dit, cette année, on a en extérieur toute une zone de spectacle, notamment avec forcément les fameuses trompes de chasse, des concerts, des concours. On a de l'agility qui doit se faire sur le ring de présentation. On va avoir aussi un spectacle de fauconnerie interactif avec le public le samedi et le dimanche à 15h, qui va durer à peu près 3 quarts d'heure, avec une quinzaine d'oiseaux qui vont voler, dont c'est programmé par les Ailes de l'Urga, qui sont une association qui qui le fait toute l'année et qui est manœuvré par des grands passionnés de la fauconnerie. Voilà. On aura aussi ce qu'on appelle le marking. Alors c'est des chiens de rapport, c'est des labradors qui ont lancé des apportables et qui ont l'intelligence de reconnaître en fait l'ordre dans lequel on leur a lancé et d'aller les chercher les uns après les autres. Voilà, tout ça c'est de la démonstration pour le grand public, pour qu'ils puissent découvrir un peu plus le monde de passionnés qu'on est.
Est-ce qu'il y aura des activités pour les enfants
Alors on a, c'est une exclusivité sur ce type de salon, puisque les autres salons en général le font pas très souvent. Mm-hmm. On aura tout un espace enfant avec plein de petites activités qui leur sont dédiées, forcément qui tournent autour de ces quatre thèmes là.
Oui.
On va pas sortir de ce contexte là, bien évidemment. Et puis on aura également un baltrap laser. Alors l'avantage du baltrap laser, ça fait pas de bruit, c'est pas dangereux.
Oui.
Des enfants de 5 ans peuvent utiliser. C'est des vrais fusils, mais complètement neutralisés. Hein.
C'est
simplement un laser, très léger. Et puis, il n'y a pas de danger. Quoi. Au niveau de la sécurité, on est complètement...
Oui, c'est comme à la foire du coin. Quoi.
C'est ça, mais avec, c'est vraiment comme un baltrap. Hein. C'est des plateaux qui partent, ça va assez vite. Il faut quand même être très réactif. Même pour les habitués, comme je peux l'être, il faut y mettre un peu de l'énergie. Pour. L'avantage, c'est qu'on peut le faire à 5 en même temps, puisque le plateau n'est pas cassé. On a un tableau de compte devant nous et on voit si on a percuté le plateau qui a été lancé.
Et d'ailleurs, vous êtes combien derrière
Alors l'association, du coup, a réuni à peu près 70 bénévoles.
Ah oui, quand même.
Voilà. Bon, après, entre guillemets, ça aurait été trop. Il ne faut pas non plus être trop nombreux sur l'événement, puisque c'est un peu différent d'une foire ou d'une fête de la chasse en extérieur, mm-hmm. puisque là, c'est des prestataires, moi, entre guillemets, que je paye, qui vont nous monter les stands à l'intérieur et tout ça. Donc, c'est un petit peu différent de ce qui peut se faire à l'extérieur, ou comme c'était le cas à la fête de la chasse de Carouge, où il y avait plus de 400 bénévoles, où c'était
D'accord.
vraiment mm-hmm. quelque chose d'assez conséquent.
Et vous, est-ce qu'on pourra vous retrouver sur un stand
Alors, lors de l'événement, vous ne me retrouverez pas sur un stand, vous allez me retrouver un peu sur tous les fronts. Non, mais je serai tout au long du week-end un petit peu partout, notamment à l'inauguration du salon où les élus seront là le samedi matin. Je pense aux sénateurs, sénatrices, les députés, mm-hmm. monsieur le maire, et d'autres personnalités qui seront présentes, qu'on ne peut pas forcément nommer pour des questions de sécurité de protocole.
Oui.
Voilà, mais qui seront là le jour J.
Génial, bah, on y sera pour justement découvrir qui ils sont.
Voilà, ça serait une surprise.
Je me demandais aussi, par rapport à un autre événement du même type, qu'est-ce que ce salon, votre salon, se distingue par rapport aux autres?
Alors, il se distingue par rapport au prix, tout simplement. On est beaucoup moins cher que sur le même type d'événement, okay. sur les autres salons qui sont passés encore ce week-end ou les mois précédents, ou qui vont se produire après notre événement. Ce qui permet aux exposants, je pense en l'occurrence à tous ceux qui se lancent dans la filière chasse-pêche nature et terroir, de pouvoir être présents à des prix très attractifs, ce qui n'est pas le cas forcément sur les autres salons. Quand certains salons proposent des stands à 4000 euros, très compliqué. Nous, on en est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher que ça.
Ah oui, c'est vrai que c'est assez conséquent.
C'était une volonté de ma part, en fait.
Oui.
C'était une volonté de ma part. Je voulais absolument, puisque mon objectif n'est pas le profit, l'objectif, c'était de créer l'événement pour revoir des gens heureux sur un événement. Voilà, c'était moi le but, c'est que ça soit un rendez-vous annuel pour tous ces passionnés-là, que tous les ans on vient se retrouver pour voir les amis, partager un bon moment. C'est ça l'idée générale de ce salon.
Et d'ailleurs, est-ce qu'on pourrait retrouver des stands où on pourra parler avec des professionnels de pêche et pouvoir nous donner des conseils, même rejoindre des clubs
Oui, alors, dans tous ces mondes-là, en fait, on est plus sur des associations en général.
Mm-hmm.
Mais effectivement, il y a une centaine d'exposants en tout pour cette première édition. Et il y a beaucoup d'associations qui sont présentes dans tous les domaines, pêche, mais bien sûr chasse aussi, hein, et qui sauront vous expliquer à ce moment-là leur passion, chacun de leur côté. Je pense aux oiseaux de fauconnerie, il y a une association qui sera présente, mais on a plein d'associations qui seront là et qui pourront expliquer leur passion, tout simplement. Et au niveau de la pêche, on a, parce que vous en parlez souvent, mais on a la fédération de pêche et la fédération de chasse, mais la fédération de pêche sera présente avec notamment plein d'activités qu'eux ont proposées, notamment ce qu'on appelle les simulateurs de pêche. Alors, c'est une canne qui est reliée à un moteur face à un écran, et on a mmh. la sensation de pêcher le poisson qu'on a choisi.
Bien.
C'est-à-dire que il faut avoir un certain gabarit. Si vous choisissez le ton, vous risquez de finir dans l'écran, parce que en fait c'est vraiment, on a vraiment les mêmes sensations, quoi.
Génial, voilà. Ça avait été un peu immersif, quoi, donc
c'est ça.
Trop cool. Par rapport aux années, là c'est la première édition, oui. Comment vous voyez son évolution dans les années à venir?
Eh bien, on a pris beaucoup de retard cette année pour des raisons administratives qui étaient un petit peu complexes pour une première édition, ce qui est évident. Et du coup, malheureusement, on a pu démarrer qu'au mois de mars notre communication, notre commercialisation, ce qui fait que c'était un énorme challenge pour tous les gens qui m'entourent, les équipes et la société Wearcraft qui m'accompagne sur tout le projet, qui est une société événementiel, sans qui j'aurais pas pu voir le jour sur ce salon. En fait, on a déjà une cinquantaine d'exposants qui nous ont déjà pré-signé leur contrat pour l'année prochaine, qui souhaiteraient être là, qui, pour des raisons de planning, n'ont pas pu être présents pour cette première édition, mais qui souhaitent vraiment être attachés à la seconde, en tout cas. Et autant aussi pour la programmation de l'année prochaine, où on a déjà des spectacles qui sont pré-signés.
C'est cool. Voilà,
donc c'est plutôt positif.
Très bien. Et est-ce que vous souhaitez que ça reste dans l'Orne, ou vous souhaitez aussi aller un peu plus loin?
Alors moi, je suis chevin, je suis né à Alençon, donc c'était une priorité, même si on nous avait proposé à Caen, le Haras du Pin ou Saint-Lô de faire l'événement là-bas. Malheureusement, étant alençonnais, je voulais que ça se passe à Alençon. Voilà.
Bon, bah, c'est cool, déjà, on peut se dire que Alençon, ça restera ici.
C'est pour moi une priorité absolue.
Trop cool. Bon, on va revenir un petit peu sur votre passion pour... ce qui vous a amené à créer le salon. Dites-nous un petit peu plus sur cette histoire autour de la nature, la chasse, la pêche.
Oui, bah moi, j'ai toujours été bercé dans cet environnement-là. Que ce soit, j'ai des photos de mon arrière-grand-père, donc mon grand-père, et ainsi de suite, de mon père, et mes fils sont aussi dans la continuité. Donc en fait, c'est quelque chose qu'on transmet de génération en génération. Bon, je pense qu'à partir du moment où on pratique ces activités-là, avec l'éthique et puis la... les bonnes choses, en fait, il n'y a pas lieu de se cacher, au contraire, c'est quelque chose qu'on doit mettre en évidence au lieu, à la vue du grand public, et c'est aussi pour ça que cet événement-là a été créé, pour que les gens qui ne connaissent pas ces passions-là, en fait, la découvrent le jour de ce week-end, en fait.
Et quel conseil vous donneriez à quelqu'un qui souhaite se lancer, mais qui ne sait pas forcément sur qui se tourner, ou même des endroits pour les endroits propices, ou même le matériel?
Alors moi, honnêtement, franchement, et aujourd'hui, ça c'est ouvert, il faut s'accompagner de gens qui sont passionnés. C'est eux qui vous montreront tout. Et en règle générale, il n'y a pas de grand secret. L'idée, c'est de transmettre au maximum pour les générations qui suivent. Donc le but, c'est soit de se rapprocher des fédérations de chasse, de pêche, de nature, qui, elles, vous redirigeront vers les personnes, voilà. Mais il est fréquent d'avoir des journées découvertes, autant à la chasse. D'ailleurs, au mois d'octobre, il y a une journée, un dimanche découverte, qui se fait un petit peu au niveau de la France entière, voilà, qui permet aux gens lambda de venir voir ce qu'ils ne connaissaient pas, ou ce qu'ils avaient pu voir sur les réseaux sociaux, qui sont pas toujours positifs, malheureusement, et on peut toujours être conscient que certaines personnes ne font pas les choses bien, mais ce n'est pas la généralité en règle voilà, générale.
Ok. Est-ce que vous auriez, j'aime bien terminer un peu sur ça, un souvenir de... Ça peut être n'importe quel souvenir, mais en rapport avec la chasse, la pêche, le terroir, la nature.
Les souvenirs, j'en ai pratiquant 3 à 4 jours par semaine. J'en ai des milliers dans ma tête. C'est une multitude de choses c'est une explosion de rien que d'en parler, de souvenirs positif, que ce soit avec mon épouse actuelle, des moments où quand je chasse le sanglier, des moments de peur pour mes chiens, pour mes amis, puisque c'est un animal quand même qui défend sa peau, et ce qui est bien normal, mais qui est d'une bravoure exceptionnelle. Et du coup, c'est voilà, ces petits moments d'adrénaline qui font que la vie, on la mesure un peu plus à ces moments-là, quoi.
Quel message vous souhaiteriez transmettre, donner à quelqu'un qui souhaite venir au salon mais qui hésite encore?
Il faut surtout pas s'arrêter sur les barrières des mots chasse ou pêche. Oui. C'est vraiment une généralité. Et dès l'année prochaine, on le poussera beaucoup plus loin, puisque on aura de la mycologie, donc tout ce qui concerne les champignons.
Oh,
voilà.
Génial.
Et j'y travaille avec acharnement pour que les gens de la nature, en règle générale, puissent être présents et montrer au grand public de divers horizons, en fait, la ruralité qu'on doit protéger au maximum aujourd'hui. Et c'est ça l'histoire de ce salon-là. En fait, c'est pas du tout un thème vraiment prioritaire. C'est, les quatre thèmes, ils seront présents. On a beaucoup de terroirs locaux qui va également sur nos, donc c'est-à-dire toute la bonne nourriture de notre petit pays.
C'est ça.
En l'occurrence, je pense à des producteurs de foie gras, d'escargots, une éleveuse d'autruche, une multitude de produits qu'on trouve vraiment pas dans la vie de tous les jours, et c'est le moment d'aller les découvrir aussi, quoi.
Mais génial, on donne le rendez-vous à tous nos éditeurs. Merci à vous, Emmanuel Olivier, pour ce bel échange autour de la nature.
Du coup, je rappelle juste, donc c'est le 7 et 8 juin.
Oui, 7 et 8 juin.
De 9h à 19h, pour un prix d'entrée de 9 euros. Donc voilà, un prix qui reste attractif à toutes les familles.
Et
puis, c'est dans le même sens aussi au niveau des consommations. On est resté dans un prix qui est très abordable, qui est très...
Et
on pousse la recherche. On a, au niveau de la restauration, on a des plateaux repas qui seront, notamment, je reviens là-dessus, mais qui seront déchiquetés après et passés en compost, en fait. On a des éco-cups pour l'impact écologique. On aura, pour tout ce qui est soft, c'est du service à la bouteille, enfin en grande bouteille plutôt qu'à l'unité, pour encore une fois avoir le maximum de la moindre empreinte écologique.
C'est ça, un salon plutôt éthique. Et
on va essayer de pousser, et puis on aura qu'à charge de s'améliorer d'année en année pour aller un petit peu plus loin encore.
Génial. Eh bien, écoutez, rendez-vous. Merci à vous.
Merci
et
à vous de m'avoir reçu sur votre...
À très plateau. Bientôt, et puis on se retrouve au salon alors.
Très bien. Au revoir.
Au revoir.
A été découverte. Le signal s'intensifie. Le message se répand plus rapidement. Pulse.
C'était le morceau Coyote de Empty Joy sur Radio Pulse.
Cette radio fait partie de la Ferrarock, la fédération des radios associatives musique actuelle. Retrouvez toutes les informations sur le www.ferrarock.org.
Cette semaine, j'espère que vous n'avez pas la flemme de faire la fête, puisque nous allons découvrir tous les jours l'album La Fête du groupe La Flemme, forcément. Ce groupe, c'est l'ouragan flashy qui vient secouer le paysage musical français, emportant tout sur son passage dans un déluge de sonorités garage pop et de textures psychédéliques. La Fête que nous propose La Flemme avec ce nouvel album aura goût d'anis, je vous le jure, puisque les membres de La Flemme viennent tous de Marseille, bébé. À la base, les quatre membres du groupe faisaient partie de plusieurs autres groupes, Jules, Stella, Charles et Ronnie, sont respectivement associés à Technopolis, Flathead, Tense of Fools et Ave Noir ainsi que Tessina. Mais un jour, lors d'une belle soirée, ils se sont dit « Venez, on se réunit, on monte un groupe, mais genre un vrai groupe qui pourrait tenir debout 2 mois plus tard. Ont-ils réussi ? Bah, force est de constater que oui, la réunion de ces 4 fantastiques artistes a permis la création d'un groupe irrésistible de facilité et de décontraction, balançant sans effort apparent des compos frénétiques d'une immédiateté à toute épreuve. Depuis le 25 avril, leur tout dernier album La Fête est disponible, une régalade auditive sans précédent. Aujourd'hui, nous allons écouter le morceau Le Petit du Kama, un morceau doux et sableux. Alors pourquoi ? Puisqu'au début de ce son, nous sommes sur une plage allongée, sur notre serviette au calme, le soleil chauffant soigneusement notre peau. Puis le Petit du Kama arrive et il vient courir autour de notre serviette. Il fout du sable partout, shoot dans des ballons qui finissent tous dans notre gueule. Mais ne soyons pas rabat-joie, vive le sable, vive les ballons. Ce son nous invite nous aussi à foutre du sable sur notre serviette, à courir dans l'eau et à shooter dans le Petit du Kama, le Petit du Kama d'ailleurs, un morceau qu'on s'écoute tout de suite sur Radio Pulse.
Radio fait partie de la Ferrarock, la fédération des radios associatives musique actuelle. Retrouvez toutes les informations sur le www.ferrarock.org.
C'était le morceau Le Petit du Kama du groupe La Flemme sur Radio Pulse. Vous êtes toujours dans l'émission C'est de la locale et on passe maintenant au tête-à-tête du jour.
Une fréquence a été découverte. Le signal s'intensifie. Le message se répand plus rapidement. Pulse.
aujourd'hui, chronique à la cool, en mode décontraction, plutôt contraction même, puisque nous allons parler de naissance. Toi, Tatiana, jusqu'à preuve du contraire, tu es née. Mais est-ce que tu te souviens de ta naissance ?
Non, pas trop, non.
Tu t'en souviens évidemment pas, mais j'ai quand même demandé l'audio à tes parents. Ils m'ont envoyé l'audio de ta naissance au moment où tu as vu le jour. Nous allons donc l'écouter avec un brin de nostalgie. Mais attends, mais t'es né d'une sacrée façon. Hein. Une entrée tonitruante dans la vie. Bon, alors, si je te parle de naissance aujourd'hui, c'est parce qu'il y a quelques jours, une commune dans l'Orne d'à peine 500 habitants a vu un bébé naître dans leur commune, ce qui n'était pas arrivé depuis plus de 40 ans. Cette commune, c'est Ménil-Hubert-sur-Orne, une commune qui ne compte aucun hôpital, donc il n'y a pas vraiment de raison pour qu'un bébé naisse dans cette commune.
Mais comment c'est possible ?
Ben en fait, la future mère est emmenée par les pompiers pour aller à l'hôpital, mais sur le chemin, ils comprennent bien que le bébé, le marmot, il va pas sortir entre les quatre murs blancs d'une chambre d'hôpital, mais bien sur la route. Alors, les pompiers, ils ont dû s'arrêter à l'arrêt de bus du Ménil, Hubert-sur-Orne, pour procéder à l'accouchement. D'après la mère, l'accouchement s'est bien passé. Le bébé, lui, aurait déclaré « Content d'être enfin sorti, j'avais plus de place, et puis l'air est meilleur ici, même si, bon, la planète est un peu polluée. » Mais du coup... Avec cette anecdote drôle et mignonne, je me suis demandé, est-ce qu'il n'existe pas d'autres naissances insolites partout dans le monde ? Et avant de commencer ce petit tour d'horizon, sache que les bébés ne pleurent pas lorsqu'ils naissent. Enfin, ils pleurent, mais en fait, ils n'ont pas de larmes qui coulent, puisque leurs canaux lacrymaux, ce canal qui déverse les larmes, et ben en fait, les canaux lacrymaux, ils ne sont pas tout à fait développés à la naissance, donc ils ne peuvent pas pleurer. Ils pleurent seulement un ou deux mois après. Donc, on ne peut pas dire qu'à la naissance, un bébé pleure. Par contre, on peut dire qu'il crie.
Mais pour en venir du coup aux naissances un petit peu insolites, c'est laquelle qui t'a le plus choqué ?
Franchement, c'est la naissance d'une petite June aux États-Unis, puisque sa mère Amber Miller a accouché d'elle après avoir bouclé un marathon. Je ne plaisante pas, elle a tenu à participer au marathon de Chicago alors qu'elle était enceinte de 9 mois. Son médecin lui a dit « Bon bah ok, tu peux le faire le marathon, mais tu alternes entre marche et course. Marche et course. » Au final, au bout de 6h26, elle sent le bébé toquer à la porte, mais ça y est, elle a quand même bouclé le marathon. Une fois qu'elle l'a bouclé, clairement, direction l'hôpital pour aller accoucher, même pas le temps de prendre la médaille de faim. Bon, à la fin, elle a déclaré être fatiguée après son marathon et son accouchement. Oh, je peux la comprendre, si personnellement, dans ma vie, je ne ferai sûrement jamais l'un ni l'autre. Autre accouchement fou, celui de Nancy Salguero, qui avait 32 ans en 2011. C'est une sage-femme qui souhaite promouvoir l'accouchement à la maison. Un truc vraiment hyper naturel. Mm-hmm. Mais comment faire pour en faire au mieux la promotion ? Eh bien, elle s'est filmée en direct sur Internet pour montrer que c'était possible d'enfoncer de façon naturelle sans aide médicale. Du coup, elle a lancé un live sur Internet et elle a dit « Regardez, je vais accoucher, vous allez voir, c'est possible de le faire tout seul. » Enfin, il y avait une sage-femme qui allait arriver, mais elle a commencé l'accouchement en étant toute seule pour justement promouvoir le fait d'accoucher de manière naturelle. Son accouchement, il a quand même été vu par 2000 spectateurs, du coup, en direct, en ligne, qui s'amusaient même, parce qu'il y a un chat, donc ces spectateurs-là s'amusaient à pronostiquer le sexe, etc. C'est assez lunaire comme truc.
Et est-ce que la légende qui raconte qu'un bébé il naît dans un avion, il pourra voyager à vie gratuitement, est-ce que c'est vrai ou c'est faux ?
Alors c'est vrai qu'il y a cette idée, cette légende qu'un bébé qui naît dans un avion, il peut voyager du coup à vie dans la compagnie. Et ben en fait non, c'est faux. Déjà, prendre l'avion, ça pollue, donc faut pas trop le faire. Et puis, les compagnies d'avions ont globalement envie de faire de l'oseille. Alors, des petits cadeaux, oui, mais des cadeaux à vie, là, ça n'existe pas. Par exemple, dernièrement, en 2017, lors d'un vol de la compagnie Spirit Airlines entre Fort Lauderdale et Dallas aux États-Unis, une femme a accouché à bord de l'avion. Heureusement, dans l'avion, il y avait par chance un pédiatre qui sortait de son jour de congé pour aider la demoiselle à mettre bas. Et pour en revenir à ta question, ce petit garçon qui est né dans l'avion pourra voyager gratuitement chaque année le jour de son anniversaire à bord d'un vol de justement Spirit Airlines, la compagnie en question. Mais bon, quand il pense, c'est un peu un cadeau empoisonné puisque même s'il fait l'aller gratuitement le jour de son anniversaire, il doit forcément faire le retour, qui lui est pas gratuit. Donc c'est un cadeau qui est, on va dire, mi-figue, mi-raisin. D'ailleurs, pour en revenir à un accouchement dans un avion, c'est quand même hyper rare, puisqu'en fait, les femmes enceintes de plus de 36 semaines sont pas acceptées à bord.
Oui, bah oui.
Du coup, pour éviter justement qu'elles accouchent en plein vol. Le bébé dont je t'ai parlé il y a quelques secondes, la mère était enceinte de 36 semaines pile.
Ah, oui.
Du coup, ils l'ont accepté pile poil. Ils n'auraient pas dû, ou en tout cas, heureusement, ça s'est bien passé. Mais voilà, quand tu es enceinte de plus de 36 semaines, tu ne peux pas monter dans un avion, sauf si un médecin te fait une lettre spéciale. Oui. Si jamais le personnel est un peu formé pour répondre à cet événement, même si je pense qu'ils sont formés au même titre qu'ils savent comment gérer un crash d'avion.
C'est ça.
Ils savent un peu le faire, mais si ça peut ne pas arriver, c'est mieux. Ce qui reste encore plus rare quand même qu'un accouchement dans un avion, c'est accoucher lors d'un crash d'avion. Ça, c'est énorme. On ne sait pas si c'est déjà arrivé, on n'en sait rien. Et globalement, on n'aura sûrement jamais la réponse, à moins d'un live en même temps.
C'est ça, exactement. Bah, écoute, merci à toi, Simon, pour cette belle chronique.
Avec plaisir.
Une fréquence a été découverte. Le signal s'intensifie. Le message se répand plus rapidement. Pulse.
Cette radio fait partie de la Ferrarock, la fédération des radios associatives musique actuelle. Retrouvez toutes les informations sur le www.ferrarock.org.
On passe maintenant au deuxième album Ferrarock de la semaine à vous présenter. Il s'appelle Avec toi de Pierre Gisèle, un nom un peu intriguant, un projet qui l'est tout autant. Avec toi, c'est un album qui explore les liens qu'on crée, ceux qu'on peut perdre aussi, ceux qui restent. Il y a dans ces morceaux une réelle attention aux détails, une façon de raconter des choses simples avec beaucoup de justesse. Rien n'est surjoué, ça parle de quotidien, de l'intime, et c'est ce qui touche. Musicalement, c'est une pop française finement arrangée, avec des textures fines, un peu électronique parfois, mais toujours au service de l'émotion. La production est sobre, élégante. On sent que tout est là pour laisser de la place aux mots. C'est un album qui ne cherche pas à en faire trop. Il prend son temps, il laisse respirer et au final, il reste longtemps en tête. Un disque sincère, humain, qui fait du bien sans jamais tomber dans le confort facile. Et je vous propose d'ailleurs un extrait et même le titre qui en dit long sur l'ambiance de l'album. Voici le titre « La solitude des vacances » sur Radio Pulse.
J'ai jamais aimé l'école. Les autres enfants étaient méchants avec moi parce que j'avais des cheveux bizarres, un nom bizarre, des dents bizarres, des fringues bizarres. À l'époque, j'aimais déjà le velours côtelé, les pantalons trop larges et les jeans déchirés. Et mes parents me trouvaient aussi bizarre, mais ils ont juste décidé de me laisser faire, de m'encourager. De toute façon, même si les enfants n'avaient pas été méchants, je ne serais certainement pas allée leur parler. Mes seules priorités étaient les chiffres, les lettres et écouter Gainsbourg et Armstrong toute la journée. J'étais bonne élève, mais je n'ai jamais compris le principe d'autorité, les règles dans la cour de récré, les garçons qui jouent au foot et les filles à la poupée. Ce qui me faisait tenir était de compter sur mon calendrier les jours pour enfin retrouver.
La solitude.
entend parler des enfants, je me suis très vite demandé dans quel monde c'était ok de se lever si tôt le matin et de rentrer chez soi si tard le soir. Assis toute la journée face à ce tableau noir, à se faire laver le cerveau avec l'histoire colonialiste et capitaliste, et à mettre toute son énergie à essayer de ressembler à tout le monde et à faire taire la petite voix dans notre tête qui nous dit « Mais pourquoi je peux pas juste être moi-même et étudier les vrais sujets qui comptent ?» Tout ça face à un ou une professeur qui a dû oublier que lui ou elle aussi, étant enfant, n'avait qu'une envie, c'était de retrouver... Ensuite, j'ai grandi et allé savoir pourquoi, j'ai décidé de retourner à l'école. J'ai dû vouloir prendre une revanche sur la vie ou j'ai peut-être voulu devenir l'adulte que j'aurais rêvé avoir en classe, c'est-à-dire celui ou celle qui soutient les enfants bizarres et qui leur répète que c'est tout à fait normal d'aimer la solitude des vacances. Incroyable, je me rends compte que ce ne sont pas les enfants qui sont réellement méchants, mais en fait les adultes, et que la violence des enfants ne fait que refléter les adultes que nous sommes dans notre société, c'est-à-dire des adultes cupides, jaloux, compétitifs, autoritaires et rabaissants envers celles et ceux qui aiment.
La solitude des vacances, la solitude des...
Adultes qui nous font croire que si on arrive en retard en cours, on va rater sa vie. Des adultes qui nous font croire que si on porte un t-shirt trop court, on va devenir une pute et qui nous font croire que pute est une insulte. Eh bien, ces adultes-là ont tort. Et à tous les enfants bizarres, ne vous inquiétez pas, car vous allez vite réaliser qu'on est hyper nombreuses et nombreux à aimer.
La solitude des vacances.
A été découverte. Le signal s'intensifie. Le message se répand plus rapidement. Pulse.
C'était le morceau La solitude des vacances de Pierre Gisèle sur Radio Pulse. Vous êtes toujours dans l'émission C'est de la locale, 18h-19h. Et il est maintenant l'heure de passer à notre incollable local.
Une fréquence a été découverte. Le signal s'intensifie. Le message se répand plus rapidement. Pulse.
Bon, Simon, je ne sais pas si tu as vu passer, mais il fait beau, il y a le soleil, c'est vrai.
Ouais.
Mais pour certains départements de la France, ils ont été ces derniers jours ou alors là dans les prochains jours, ils vont être en vigilance orange orage.
Orange orage.
Ouais.
Bon, attention.
Donc voilà, à faire très attention. Et donc je me suis dit, bah tiens, on a parlé un peu nature, pêche et tout. Est-ce qu'on ne ferait pas un petit incollable local plutôt ludique, préventif, sur eh bien, l'orage? Ça peut être pas mal, on va en apprendre. Pas mal, moi en tout cas, quand je l'ai fait.
J'aimerais trop qu'on fasse un incollable local pas ludique.
Ouais, non.
Vraiment un truc, bah, je sais pas
techniquement,
comment...
Techniquement, ça se trouve, tout ce qu'on a pu faire, c'était pas ludique.
C'était pas ludique, ça veut dire quoi, ludique?
Bah, c'est qu'on apprend des choses et que c'est drôle. En fait, on apprend
ça, t'as toutes les définitions de mots.
Non, pas forcément.
C'est bien d'avoir fait des études en littéraire.
Bon, allez, on passe à la première question. Dis-moi, est-ce que tu sais quelle est la température que peut atteindre un éclair?
Ah, mais attends, mais c'est bien ça comme question.
Oui, tu as des propositions si tu...
Je peux faire une estimation et après tu me donnes tes propositions. Vas-y, un éclair comme ça de tête, combien ça... Je veux dire, combien ça coûte, pas du tout. La température d'un éclair. En vrai, je sais pas, c'est du feu. C'est quoi, c'est l'électricité?
Ouais,
genre 50 degrés. C'est quoi les propositions?
Ah non, 50 degrés.
Non, je suis à l'opposé total.
Mais mon loulou, t'es...
J'ai dit n'importe quoi. C'est quoi les propositions?
Les propositions, t'as 30 000 degrés.
Ah oui, d'accord. Non, je suis 50 degrés. C'est une canicule en Espagne.
10 000 degrés.
Ah ouais, ouais, non,
ou
je
alors
suis trop con.
Aussi chaud que toi quand tu crèmes sur la plage.
Let's go. Bah moi, quand je crème sur la plage, je suis à 50 degrés. Donc c'est 30 000 degrés. Bah vas-y, 30 000 degrés.
Ou tu as 10 000.
10 000 degrés. Un éclair, c'est donc 10 000 degrés.
Non, mais 30 000 ou 10 000?
Ah bah 30 000.
30 000, tu as raison.
Ah.
En fait, lorsqu'un éclair se produit, c'est une gigantesque décharge électrique qui traverse l'air entre deux zones, donc très souvent entre un nuage et le sol. Et cette décharge est si intense qu'elle peut chauffer l'air à 30 000 degrés, soit 5 fois la température de la surface du soleil. Et c'est ce chauffage ultra rapide qui fait exploser l'air autour et qui en fait produit le tonnerre.
Mais non.
Ouais.
C'est incroyable. Mmh. Bah, franchement, là, si j'ai bien compris, l'éclair est plus chaud que le soleil.
C'est ça.
Bah dis donc.
Ouais, c'est dingue.
Qui l'eût cru?
Deuxième question, que faut-il éviter de faire pendant un orage, et ça, même à l'intérieur?
Se mettre sous un parapluie. Faut éviter de le faire en extérieur.
Oui, bah déjà, il faut pas le faire à l'intérieur.
Mais oui, c'est vrai. Globalement, tu mets un parapluie à l'intérieur, t'es bon.
Bon, toi, c'est temps de malheur. Est-ce que tu veux des propositions?
Ouais, parce que là, je vais dire n'importe quoi.
Alors, tu vas prendre une douche, se mettre en face d'une vitre ou cuisiner?
Cuisiner, non, je pense que tu peux. Prendre une douche, je vois pas trop pourquoi. Se mettre en face d'une vitre.
Et bah non, en fait, c'est prendre une douche.
Pourquoi?
Et techniquement aussi cuisiner, parce que, enfin, à part si tu cuisines au gaz, mais encore. En fait, même à l'intérieur, la foudre peut suivre les conduites d'eau ou les câbles électriques.
Ah.
C'est pourquoi, en fait, il est déconseillé de prendre une douche, un bain, faire la vaisselle ou utiliser des appareils électriques pendant un orage. Et en cas de foudroiement d'une ligne proche, l'électricité pourrait suivre les canalisations et vous électrocuter.
Bah c'est pour ça que je prends pas de douche. J'ai peur de l'orage.
C'est pour ça que... Bon, on ne parlera pas de l'odeur de Radio Pêche.
Non, du studio.
Exactement. C'est pour ça qu'on fait tout dans mon studio, finalement.
Parce que le mien, on ne peut plus rentrer dedans.
Exactement. Il n'y a que toi, finalement.
J'ai peur de l'orage.
Troisième question. À ton avis, combien d'éclairs frappent la Terre chaque seconde?
Waouh, seconde, c'est dur, ça.
Ouais.
Seconde. Je vais encore dire un truc et ça va être complètement au-dessus. Je dirais, il y en a...
Non, pas de... Combien de secondes? Combien d'éclairs frappent la Terre?
Oui, bah, je me doute bien. Ah. Une seconde.
Proposition, tu as 100, 300 ou autant que ton body count.
Mon body count. Ça veut dire qu'il y en aurait un éclair. Non, je dirais 300 éclairs.
Non, c'est 100.
100 éclairs par seconde sur Terre.
Et oui, on estime que sur la planète, environ 2000 orages coexistent simultanément et près de 100 coups de foudre se déchirent sur la Terre chaque seconde. Au total, en fait, ça représente environ 4000 orages quotidiens et 9 millions de décharges atmosphériques par jour.
Attends, t'as dit qu'il y a 100 orages par seconde dans le monde.
Ouais.
C'est-à-dire que durant toute l'émission CDA locale de 18h à 19h, bah, y a 3 millions d'éclairs. Incroyable.
Tu es très fort en calcul, mais ouais, ça doit être ça. Hein.
Bah non, mais je te le dis, c'est ça.
C'est dingue. Hein.
3 600 000, même si tu veux.
Tu dis qu'à ce moment-là où on est en train de faire l'exécution, il y a un orage là, quelque part. Quoi.
Après, la Terre est immense. Ouais,
oui,
je vais pas te mentir.
Pour ça. Bon, elle est immense, mais l'émission, eh bien, c'est la locale avec l'incollable local. Léo aussi. On passe à la quatrième question. Quelle est la meilleure position à adopter si vous êtes dehors pendant un orage sans abri?
J'ai envie de te dire à quatre pattes. Mais allez, clairement à quatre pattes.
T'es presque.
C'est un vrai ou faux?
Non.
Faux.
Alors, proposition, tu vas s'accroupir les pieds joints.
Ouais.
Courir en zigzag en mode Mario Kart.
Oui, hein, avec un parapluie sur la...
Ouais. Ou alors tu te couches à côté d'une voiture.
Non, se coucher à côté d'une voiture, c'est peut-être bête. Non, j'aurais dit la première proposition.
Ouais, t'avais presque du coup.
Ouais, j'avais deviné à moitié.
Hein. En cas de danger immédiat, en fait, sans abri proche, la position de sécurité recommandée, et je l'ai vu, en fait, c'est un pompier qui l'a dit. En fait, il faut s'accroupir, les pieds joints si possible. Et encore mieux si t'es joué sur un sac à dos. En fait, il faut éviter le contact avec le sol. Parce que en fait c'est là où si t'as, on va revenir après sur une des questions, mais si t'as en fait ça passe par tes jambes et ça remonte. Donc il faut éviter avant tout le contact du sol. Donc si tu peux te mettre accroupi sur ton sac à dos ou sur autre chose, sur ta compagne par exemple,
sur ton pote qui t'accompagne dans la vie,
exactement, s'il est sympa, il te laisse la vie sauve. Cinquième question, là on passe à un vrai ou faux. Vrai ou faux, la foudre tombe souvent sur des vaches que des humains?
Ouais, c'est vrai.
Et oui, vrai. Alors, selon un chercheur, Stéphane Schmitt, entre 5 000 et 20 000 bêtes meurent chaque année foudroyées en France, le plus souvent des vaches, en raison de l'importance du cheptel bovin, qui est en fait plus de 18 millions. Et comme les humains, les vaches sont rarement touchées directement par la foudre, mais plutôt
par le
sol, victime du phénomène tension de pas, où en fait, comme tu viens de dire, l'impact tombe à proximité et ça monte du coup de leurs petites pattes jusqu'en haut. Et voilà.
Le chercheur, il s'appelle Edouard Schmitt.
Non, il s'appelle Stéphane Schmitt.
Stéphane Schmitt.
Ouais.
C'est vraiment un nom de... Je sais pas, ça me fait rire.
Ouais. Mais non, c'est dingue. Plus les vaches, je suis un petit peu pincée par le cœur parce que c'est mon animal préféré.
Bah, surtout qu'en tant que végétarienne, bon...
Ouais. Pas grave.
C'est terrible.
Sixième question. À ton avis, quel gaz donne à l'éclair sa lumière bleutée?
Lumière bleutée, j'aurais plutôt dit que c'est jaune, moi, un éclair.
Non, elle est blanche et bleutée, ça dépend, mais tu vas savoir pourquoi.
Pourquoi c'est un peu bleuté?
Ouais.
Et bah, parce
quel
que...
gaz, du coup?
Quel gaz? Comment ça, quel gaz?
Quel gaz?
Ah.
Et oui, alors...
C'est pas un vrai ou faux?
Proposition, non. Tu as l'azote, l'oxygène ou bien le gaz hilarant.
Le gaz... Non, c'est pas ça. On dit non au gaz hilarant, c'est dangereux.
Non, on dit non, c'est vrai.
Pas de ça. Deuxième proposition, de l'azote.
L'oxygène?
Première proposition, de l'azote.
Oui, en fait, l'éclair ionise les gaz présents dans l'air. L'atmosphère terrestre est composée à environ 78% d'azote. Et en fait... En s'échauffant brutalement, ça émet une lumière un peu bleutée. Et en fait, c'est le gaz qui est responsable de cette lueur qui peut être, comme je dis, bleue ou alors blanche.
Ok.
Donc là, c'est un vrai, autre question, vrai ou faux. Justement, on continue avec la lumière et tu vas comprendre qu'il y a beaucoup plus d'autres couleurs. Vrai ou faux, la couleur d'un éclair donne des indices sur sa température. Voilà.
Bah ouais, carrément.
Et oui, vrai. Plus l'éclair est blanc ou alors bleuté, plus il est chaud. Un éclair rouge ou jaune, comme tu l'as dit tout à l'heure, il est généralement moins intense ou vu à travers plus de particules, donc c'est-à-dire pollution ou de l'humidité. Et en fait, bon, après, c'est pas une mesure scientifique qui est exacte, hein, mais c'est quand même un bon indicateur visuel. Après, voilà, les chercheurs, je pense qu'ils se passent pas que sur la lumière de ça pour la température. Je pense qu'ils font bien plus de calculs. Mais nous, en tant que personne lambda, on peut voir un petit peu par rapport à ça, quoi, la température. Donc, ça peut être pas mal. Dernière question. On est toujours sur un vrai ou faux, vrai ou faux. La foudre peut frapper un homme et guérir sa maladie.
Ouais, à mon avis, il y a des petites anecdotes comme ça qui... Non, c'est vrai?
Eh oui, c'est vrai.
Mais oui, c'est vrai. À mon avis, t'as une petite anecdote en stock.
Bah, j'aurais pas posé la question si c'était faux.
Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
Mais c'est vrai. Et en fait, c'est arrivé une fois seulement. En tout cas, ça a été recensé une seule fois. C'est en 1980, un homme aux États-Unis atteint de surdité partielle aurait retrouvé Louis après avoir été frappé par la foudre. Ça reste un cas isolé, inexpliqué scientifiquement, mais il est quand même un peu documenté et il est plus fréquent quand même que la foudre provoque des handicaps que l'inverse. Mais ça a été recensé, comme j'ai dit, une fois où il a été guéri de sa maladie avec, eh bien, avec cette foudre, quoi.
Ce foudroiement.
Ouais, ce foudroiement.
Ce foudroiement. Bon, en tout cas, si tu veux savoir toutes les petites stats, dans le monde, par an, c'est 240 000 personnes qui sont touchées par la foudre.
Ouais, et dis-toi qu'il y a plus d'hommes que de femmes.
Ouais, bah oui, parce que les éclats, ils sont misogynes. Non, ou galants, je n'en sais rien.
Moi, je pense qu'ils sont galants.
Mais et ouais, c'est 24 000 personnes qui meurent d'un éclair.
Ouais, non, mais franchement, c'est assez dingue. Et j'ai vu
mais
aussi...
c'est pas, moi, je trouve ça pas énorme, je sais pas.
Hein, c'est quand même... Bah oui, mais après, il y a beaucoup
de prévention. Non, je suis pas en train de dire que 24 000 personnes qui meurent, c'est pas beaucoup. J'ai pas dit ça.
Oui,
mais dans le monde, par an... Si, c'est quand même beaucoup en vrai.
Mais
faudrait
c'est
comparer.
Beaucoup. Après, il y a quand même pas mal de prévention autour de ça. Comment faire les gestes, comment. Enfin, tu vois.
Bah, je exactement de... comme ce qui se passe là quand il y a des alertes rouges et oranges en France sur les éclairs. On dit sortez pas. Non, ça n'arrive pratiquement jamais, mais si ça vous arrive, c'est dangereux, quoi.
C'est ça. Après, j'ai vu un truc aussi, c'était par rapport quand tu te fais foudroyer. Tu sais les marques des traits,
de
ça fait un peu
ah
un arbre
ouais.
de vie. Et bien apparemment ça reste pas hein, ça part vraiment au bout de genre 2-3 jours, ça part quoi.
C'est dommage, enfin ouais, c'est dommage, ça reste des cicatrices mais c'est joli.
C'est ouais, en fait c'est à la fois joli, c'est troublant et ça fait peur. En fait tu te dis le courant électrique, qu'est-ce qu'il peut faire sur ton corps.
Ah ça, bah mets deux doigts dans une prise, tu vas voir ce que ça fait sur ton corps.
Mais t'as vu, ça fait un arbre de vie, c'est enfin ça laisse ouais. hallucinant. Après ça dépend des gens mais ouais, et directement dans le dos, enfin sur le dos en tout cas, moi ce que j'ai pu voir.
Mais globalement, quand il y a des éclairs, faut faire gaffe quoi.
Ouais.
Quand tu fais le GR20 en Corse, donc la grande randonnée qui passe dans toutes les montagnes en Corse, mm-hmm. quand il y a des éclairs, tous les Corses qui sont dans les refuges, ils disent aux petits touristes, n'allez pas dans les montagnes, n'y allez pas, ça fait très peur. Et on a, quand je l'ai fait cet été, le GR20 justement, j'ai croisé des mecs qui n'avaient pas écouté ces petits Corses du refuge et qui étaient partis et qui s'étaient retrouvés dans les éclairs dans leur tente la nuit et ils m'ont dit mec ça fait trop peur, c'est terrible.
Ah ouais,
parce que c'est marrant, c'est qu'en fait tu te caches derrière des cailloux, des rochers et en fait ils, tout comme les sangliers, les animaux qui sont dans les montagnes, et du coup ils se sont retrouvés à être cachés avec des sangliers.
Ah ben
enfin c'est hallucinant, tu vois les anecdotes. Vive la randonnée, vive le GR20.
C'est ça. Et puis, moi, j'ai vu un truc aussi. Oui, donc du coup, pour en revenir à ça, j'ai perdu mon truc. C'est que, en fait, là, il y a... Je sais même pas, j'ai pas regardé, je t'avoue que j'ai pas regardé, mais j'ai vu passer ça, qu'il y avait 10 départements. Aujourd'hui, ça a été dit... Enfin, du coup, ça a été dit aujourd'hui, mais 10 départements sont en vigilance orange, aujourd'hui. Donc, j'imagine pour ce soir. Là, déjà, derrière toi, je vois le vent qui souffle pas mal. je sais pas si on y est nous, mais je sais que ouais, à partir de demain déjà, il fait pas très très beau. Après voilà, pour nos éditeurs qui nous écoutent, faites attention à vous. Je pense que là, ces derniers jours, avec les grosses chaleurs qu'il y a eu, notamment la petite full chaleur vendredi dernier, je pense que là, on va y avoir droit aussi, surtout dans l'Orne.
Si je peux te rassurer, Tatiana,
dis-moi tout.
Nous ne sommes pas dans
ouais,
les départements avec vigilance. Ce qu'ils le sont, c'est dans le sud-ouest.
Oui, voilà,
ouest,
sud, c'est ça.
Sud-ouest, sud. Donc Pyrénées-Atlantiques, les Landes, les Hautes-Pyrénées, le Gers et, on va dire, les régions du Rhône, donc l'Ain, Saône-et-Loire, le Jura, la Nièvre, etc.
Ça, c'est dingue. Mais t'as pas remarqué, par exemple, maintenant, avec tout ce qui est réchauffement climatique, tout ça, maintenant, les orages, notamment le tonnerre, hein, sont et deux fois plus explosifs qu'avant.
Mais j'ai envie de te dire, la Terre a mal. La
ouais.
Terre a mal, donc elle le fait comprendre à nous humains.
T'as
voilà,
raison.
On va finir là-dessus, je
mais
pense.
Ouais. Mais ouais, écoute, c'était cool, voilà.
Bah vrai, merci beaucoup pour tes petites questions, ça a duré longtemps, c'était trop bien.
Ouais, bah écoute, je voulais faire un truc, je me suis dit pourquoi pas sur la
nature. Parler des orages.
C'est vrai que le mardi, on a tendance à faire un truc un peu sur la nature, le développement. Et je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas faire sur l'orage puisqu'on est en plein dedans.
Mais attention, vigilance orange pour des départements qui sont certes loin de nous, mais dont on envoie du soutien.
Et oui, exactement, faites attention à vous.
On se dit à demain.
Accroupi quand même.
On se dit à demain, Tati.
Ouais, à demain.
On vous dit à demain, les auditeurs de Radio Pulse. Restez avec nous, puisque là, du bon son va arriver dans quelques secondes.
Oui.
Dans quelques secondes, pourquoi ? Parce qu'on va s'écouter demain du groupe La Flemme, qu'on a présenté il y a quelques secondes.
Oui.
Quoi de mieux pour se dire demain qu'un son qui s'appelle Demain, finalement.
Exactement. À demain, les loulous.